retrouve à 17h pour un autre point sur l'actualité.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Sporama, votre émission hebdomadaire qui parle du sport sur la voie de l'Amérique. Au sommet ce soir, la reprise des Coupes d'Afrique des clubs avec le Final Four en Coupe de la CAF et les demi-finales aller en Ligue des Champions. Et puis, Mondial de football 2030. L'Espagne et le Portugal officialisent leur candidature commune. Et pour parler de tout ceci, on retrouve comme d'habitude nos consultants en direct de Columbus dans l'Ohio. Nous avons Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Valdo Simbo Yamba Yamba est avec nous depuis Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Nous retrouvons Amine Birouk à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, dans ce studio avec moi, Lawal Din Kosuru. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir.
Bienvenue à tous. Les interclubs de la CAF ont repris après plus de 5 mois d'interruption due au coronavirus. 8 clubs dans le dernier carré des deux compétitions en Coupe de la CAF. Le Final Four a démarré aujourd'hui à Casablanca et on retrouve en direct Amine Birouk. Ça commence par une explication entre les deux clubs marocains, Renaissance de Berkane et Hassania d'Agadi, pour une place en finale face peut-être aux Égyptiens de Pyramide ou aux Guinéens de Oroya.
Ça commencera par un duel fratricide entre la Renaissance sportive de Berkane et le Hassania d'Agadir. Un Hassania d'Agadir qui se présente sans de très nombreux joueurs positifs au Covid. L'équipe de Berkane part avec la faveur des pronostics, mais elle risque gros, puisqu'en cas de qualification d'Agadir et de victoire d'Agadir dans cette compétition, il serait privé de compétition africaine la saison prochaine. On rappellera aussi que Berkane a été finaliste la saison dernière et qu'elle a envie enfin de goûter au lustre d'un triomphe africain. Concernant le match entre les Égyptiens de Pyramide et les Guinéens de Oroya, avantage vraisemblablement pour l'équipe égyptienne qui est terminée troisième de son championnat, qui possède un des budgets les plus prolifiques et les plus riches du continent. Mais attention à cette équipe de Oroya Conakry qui a déjà disputé de nombreuses confrontations africaines, qui a été en quart de finale il y a deux saisons et qui a envie peut-être de jouer au trouble fête.
Amédine Sy, demain, Oroya aura fort à faire contre les nouveaux riches d'Afrique, Pyramide FC.
Tout à fait, Élisée, le Oroya aura fort à faire face aux Égyptiens de Pyramide FC, le club guinéen qui a été privé de compétition sur le plan national pendant très longtemps à cause de la pandémie Covid-19 sera désavantagé par rapport à son adversaire qui a disputé plusieurs matchs de championnat. Mais les poulains de Lamine Diaye qui sont requinqués par leur bonne performance lors de la phase de poule tenteront de poursuivre sur leur lancée. Mais Élisée, il faut dire que ce ne sera pas facile car en face ils auront une redoutable formation égyptienne et puis les clubs d'Afrique du Nord ne réussissent pas trop souvent à la formation guinéenne qui a eu à subir des déconvenus face à Al Ahly d'Égypte en 2018 et le Wydad Athletic Club en 2019. Je pense que ces contre-performances seront une source de motivation supplémentaire pour les Guinéens qui ne rêvent que d'une chose, remporter le trophée continental après celui remporté en 78, c'était la Coupe des Coupes Élysée et cela passe par une victoire face aux Pyramides d'Égypte.
En Ligue des Champions, il était question de demi-finale aller-retour et les deux matchs ont eu lieu samedi et dimanche. Lawal, ça sent la finale pour le National du Caire, vainqueur 2-0 sur le terrain du Wydad de Casablanca.
Ouais, on pourrait le dire, Élisée, que les carottes semblent presque cuites pour les Marocains, mais quand on observe le foot, on se rend compte que tout est permis. Barcelone a été remonté par Liverpool dans ce pays.
Match d'anthologie.
Le Paris Saint-Germain également, qui menait 3-0 à l'aller, je crois, a été remonté aussi au match retour. Donc, les remontadas peuvent arriver, tout est possible, et les Marocains n'ont encore rien perdu. C'est vrai qu'ils ont été accueillis à froid, chez eux. Ils ont raté un pénalty.
Les Égyptiens ont recruté un entraîneur pour ça, un expérimenté sud-africain, Moussimane.
C'est pas là la préoccupation. Et les Marocains étaient timorés, comme c'est une reprise dans des conditions qu'on connaît. Donc, ils n'ont pas certainement eu le temps de placer, d'asseoir leur jeu.
Sous le choc du titre raté lors de la dernière journée contre le Raja.
Voilà, donc il y a tous ces paramètres-là, mais ils ont une semaine pour se racheter. On espère que le match retour sera d'une belle allure.
Amine, la confrontation Morocco-Égyptienne a tenu toutes ses promesses.
Avantage aux deux clubs égyptiens après leur victoire à Casablanca face aux deux représentants du royaume chérifien, le Raja et le Wydad de Casablanca. Le Zamalek a eu plus de peine à se débarrasser du Raja. Après l'ouverture du score d'Achraf Ben Sharkey à la 23e minute, l'équipe du Raja a réussi une superbe deuxième mi-temps. Profitant des espaces laissés par l'équipe Kerot, les Marocains se sont procurés de nombreuses occasions et c'est le gardien égyptien Abou Ghabel qui a été le véritable héros de la partie. Alors que dans l'autre rencontre, Al Ahly a pris un avantage considérable et se trouve en ballotage très favorable après sa victoire face à un Wydad qui a sorti la pire rencontre de sa saison. Une défaite 2-0 avec de très nombreuses erreurs individuelles, ce dont a profité l'attaquant Mohamed Megdi dès la deuxième minute, puis Ali Mahloul depuis le point de pénalty. A priori, lors du match retour, ce sera plus serré entre le Zamalek et le Raja, vu ce qu'a montré le Raja notamment en seconde période. Il se pourrait qu'il y ait une remontada, c'est une possibilité. Par contre, je ne vois pas comment le Wydad pourra renverser la montagne Al Ahly, une équipe qui a montré qu'elle maîtrisait tous les paramètres techniques, tactiques, individuels et collectifs.
On reste avec vous pour dire que la CAF a nommé le Marocain Mohamed Timoumi et l'Égyptien Mohamed Zakaria ambassadeur de la finale de cette Ligue des Champions. C'est une marque de reconnaissance.
C'est surtout une marque de reconnaissance pour Mohamed Timoumi, qui a été ballon d'or africain en 1985. Il avait fait partie de l'épopée de l'équipe du Maroc à Mexico 86, première équipe nationale africaine à avoir franchi le cap du premier tour d'une Coupe du Monde, qui plus est en tête de son groupe. On se rappelle le Maroc figuré dans le groupe avec l'Angleterre, la Pologne et le Portugal. Il a connu une fin de carrière assez compliquée avec de nombreuses blessures. Il a eu des problèmes de santé récemment, puisqu'il était à deux doigts de décéder à la suite d'une opération chirurgicale qui s'était mal passée à Paris. Et pour l'Égyptien Mohamed Zakaria, c'est aussi une reconnaissance d'une carrière au service du football égyptien. Autant dire que c'est une décision qui est assez symbolique, qu'il faudrait rééditer lors des prochaines compétitions africaines, de façon à ce que chaque compétition, que ce soit la CAN féminine, les catégories inférieures ou les compétitions des clubs, aient leur propre ambassadeur.
Valdo, ce sera la première fois que la CAF nomme des ambassadeurs pour une finale de Coupe des clubs. La CAF est en mode innovation.
Élisée, ça vaut la peine pour la Confédération africaine de football de bien s'y prendre à la fin, malgré ce qu'a été ses mandats. Le premier Damanabal qui aura difficile à convaincre lors des prochaines élections, toutefois. Je pense que l'idée est bien trouvée. Deux ambassadeurs de deux pays concernés par ces derniers carrés de cette Ligue des champions et de la CAF. Belle innovation, maintenant. Il faudra voir à quoi cela va servir réellement, parce que l'objectif reste celui d'atterrir en douceur avec cette Ligue des Champions. Et si cet objectif est atteint, le président de la CAF pourra bien se frotter les mains pour avoir tenté et réussi à bien faire les choses. Vaut mieux la fin d'une chose que son début, dit-on. Les Malgaches peuvent bien grappiller quelques points avant que l'on en arrive aux élections, mais pas assez, parce que il y a eu beaucoup de ratés durant ce mandat dont la fin commence à inspirer.
Ahmedine, plus les élections s'approchent, plus on aura des innovations à la CAF.
Je pense que c'est une bonne chose, Élisée, car il faudra tout faire pour convaincre les électeurs et ces genres d'innovations sont la bienvenue. Mais Élisée, je pense que le plus important, c'est le bilan, car à la fin de mandat, il faudra dresser un bilan. C'est à partir seulement de ce bilan que les gens vont se décider s'ils vont voter pour vous ou non. Car il a déjà fait des choses, maintenant on va voir. Certes, les innovations sont bonnes, mais il faudra un bon bilan pour être élu Élisée.
Laval, on est tenté de dire que ce sont des actions de campagne.
Ouais, Élisée, au risque de vous décevoir, Ahmad Ahmad est en train de prendre des décisions qui véritablement n'engagent que lui.
On a l'impression que
c'est sa réélection qui l'intéresse. Mais l'un dans l'autre, il est important qu'Ahmad Ahmad se ressaisisse et pense véritablement au développement du foot africain. Parce que c'est pas nommer les ambassadeurs qui nous préoccupent, mais comment faire pour relancer le foot. Surtout qu'on vient de rater quelque chose de très grand. Il a intérêt à se concentrer sur l'essentiel au lieu de nous servir de l'accessoire.
D'ailleurs, la CAF doit plus se préoccuper de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2022 prévue dans un mois, puisque pour la fenêtre FIFA entre le 7 et le 13 dernier, 6 matchs de préparation ont été annulés à cause du nouveau coronavirus. Alors, cette pandémie menace-t-elle la reprise des qualifications?
Elle a déjà menacé d'abord le calendrier international.
À plusieurs reprises.
À plusieurs reprises. Elle risque donc d'interférer chaque fois dans ce qui va se passer après. Mais ce qui est important à retenir, c'est que les Africains doivent chercher les moyens nécessaires pour éviter ces erreurs-là qu'on a
Est-ce que ce ne sera pas difficile? La majorité des joueurs professionnels évoluent en Europe.
Non, attendez, il y a eu un match, je ne sais plus lequel, un joueur qui a été contrôlé négatif la veille.
Oui, et c'est le Tunisien Feghani Sassi.
Le jour du match, il est contrôlé positif. Quels sont les éléments qu'on a eu pour faire ce test-là? Est-ce que les tests que les gens font à tour de bras sont des tests crédibles? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire couver le virus pour le rendre encore plus fort après? Donc il est important qu'on prenne les dispositions nécessaires, auquel cas il vaut mieux tout bloquer en attendant, trouver la meilleure formule pour qualifier les équipes pour la CAN, parce qu'il n'y a rien qui presse, je vous en prie. Il n'y a rien qui presse, il faudrait que, au niveau de la CAF, qu'on pense aux mesures véritablement barrières pour éviter une catastrophe pour le foot africain.
Amine, faut-il s'en inquiéter ou prendre le pari de se rassurer?
Je suppose que la pandémie sera un sujet de préoccupation pour toutes les confédérations, y compris la CAF. On voit que de très nombreuses compétitions sur le vieux continent connaissent des soubresauts à cause de cas positifs au Covid. Dernier exemple, le calcio italien. Puis avec ces rencontres de préparation, dont certaines avaient été annulées lors de cette fenêtre d'octobre, il va falloir un véritable protocole sanitaire, un protocole en béton, de façon à éviter ce genre de report. Faut-il s'inquiéter de ces reports? Oui. Faut-il prendre des mesures efficaces? Certainement. Et puis, si ces mesures sont prises de manière drastique, de manière rationnelle, on pourra assister à des rencontres au mois de novembre qui pourraient nous avancer vers cette CAN 2022.
À Médine, le Sénégal a dû annuler son match amical contre la Mauritanie qui a vu 8 membres de sa délégation tester positif. On risque d'assister à ce genre de situation dans un mois.
Tout à fait, Élisée, on risque d'assister à ce genre de situation au mois de novembre lors de la reprise des éliminatoires de la CAN 2022 car la situation n'est pas encore bien maîtrisée. En Afrique, la pandémie est encore là et il faudra beaucoup de moyens et beaucoup quand même d'organisation pour pouvoir quand même réussir à organiser ces matchs. Ce sera extrêmement difficile. Je prends le cas du Sénégal car la Fédération sénégalaise de football a eu à être confrontée à beaucoup de problèmes. D'abord sur le plan des accréditations pour les journalistes parce que le match devait se jouer à huis clos. Donc il fallait réduire le nombre et ça a été vraiment un casse-tête pour la Fédération sénégalaise de football. J'espère que les fédéraux ont tiré le bilan de cette rencontre annulée parce qu'il y a eu 8 membres de la délégation mauritanienne qui ont eu quand même la pandémie. Donc ce sera extrêmement difficile pour le mois de novembre pour la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, Élisée.
Valdo, il est évidemment impossible d'anticiper l'évolution de la pandémie, même si l'OMS a indiqué une baisse du nombre de cas détectés en Afrique.
Concernant cette pandémie, Élisée, l'Afrique reste une zone qui étonne le monde par la gestion et l'évolution de cette pandémie qui donne matière à réflexion. La baisse des nombres de cas indiqués par l'OMS peine à trouver des justifications, mais est-il que la Covid-19 a été à la base d'élimination de certaines rencontres amicales durant cette fenêtre FIFA, ce qui entre autres veut dire qu'il faut rester bien prudent et suivre l'évolution de cette pandémie jusqu'à l'ouverture de la fenêtre des éliminatoires de la CAN 2022. À ces jours, il est évident que l'on ne peut prévenir cette pandémie, mais il est certain qu'à chaque fois que l'on joue, le joueur s'expose à une probable contamination. Parce qu'il vient de divers horizons, il faudra alors rester vigilant avec les tests, seul moyen d'identifier et de mettre en quarantaine les contaminés pour ainsi préserver la poursuite de ces éliminatoires de la CAN 2022.
Le championnat guinéen de football de première division Ligue 1 Salam a démarré le 14 octobre. Et pour son entrée en lice, l'AS Kaloum a battu Sandouba 2 buts à 1. Wakria de Boké en déplacement à Conakry a eu raison de Satellite SC sur le même score. À Médine, une fois encore, le Oroya reste le seul favori, même si l'AS Kaloum s'est doté de moyens pour le concurrencer avec la signature de l'Ivoirien François Zawi au poste de manager général.
Exactement, Élysée, le Oroya sera non seulement le seul favori de ce championnat, mais il sera aussi l'équipe à abattre puisque le Oroya AC est l'équipe qui règne en partage depuis des années sur le championnat guinéen. D'ailleurs, le Oroya a gagné 18 titres, dont 9 durant les 10 dernières éditions. Le Oroya, qui a confisqué ce titre depuis 2015, sera largement favori. Mais une équipe comme le FC Kaloum de Sampil, qui a recruté François Zawi, tentera quand même de contester la suprématie de Oroya, mais ce ne sera pas facile puisque l'Oroya reste une grande équipe. Et je pense que cette année également, l'Oroya va dominer le championnat guinéen. Élysée.
Valdo, on est déjà à la quatrième journée à RDC et l'AS Vita Club recevait le TP Mazembe au stade des Martis dans le Classico.
Un premier face-à-face attendu de haute facture, Élysée, entre les deux formations qui malheureusement n'a pas répondu aux attentes. Pas de vitesse dans la récupération côté Mazembe, problème physique en vue. Un vrai club moins inspiré dans la construction de son jeu, une bataille dans l'entrejeu avec ses engagements physiques. Bref, un premier classico pas attrayant pour les deux représentants de la RDC à la prochaine Ligue des champions de la CAF. Les deux formations ont par moments semblé jouer à la prudence et ça a été constipé sur la ligne offensive. Heureusement pour le club qui s'est remis à son gardien Omosola, qui est resté vigilant sur sa ligne de but avec un bon jeu de jambes. Il a réussi à mettre en dérive une balle qui filait droit au but. Et à 7 minutes du terme de cette rencontre, sur une perte des balles dans l'axe de sa défense, Omosola s'est employé de nouveau pour ne pas prendre de but et préserver sa cage. Inviolé jusqu'au coup de sifflet final. Pas de vainqueur ni de vaincu entre Dauphin Noir de Kinshasa et Corbeau de Lumbashi. Le club connaît un premier coup d'arrêt après 2 victoires. Par contre, Mazembe enregistre sa deuxième rencontre nulle en autant de sorties dans ce championnat.
Lawal, au Bénin, en attendant l'ouverture des stades, les deux équipes qualifiées pour les Coupes d'Afrique ont repris le chemin de l'entraînement au stade municipal de Parakou pour le champion Buff et au stade Pierre Gascon de Pobé pour son dauphin Esaïe de Cotonou. Et justement, on écoute le directeur sportif des étudiants de Cotonou, Quentin Didavi, qui revient sur cette reprise.
Nous avons projeté un stage à 3 niveaux, voire rien que les joueurs locaux. Donc, le coach Edmé va nous aider à dégager ceux-là. Dans un second temps, nous allons avoir affaire à des joueurs qu'on nous a proposés de l'étranger qui vont rallier aussi Poubé. Et dans un troisième temps, nous allons essayer de mettre ces deux sélections ensemble pour chercher l'ossature de Esaïe FC.
Lawal, on se met déjà au travail.
Dans quelles conditions? Le championnat n'a pas repris.
C'est comme si on est en train de travailler clandestinement.
Non, on est en train, c'est comme on est en train de tirer dans l'ombre. Le championnat n'a pas repris, la fédération n'est pas encore prête à reprendre, le gouvernement n'a pas encore donné son quitus. On a beau reprendre, et moi, je m'inquiète pour ces équipes-là qui n'ont aucune compétition dans les jambes, qui vont jouer les tours préliminaires. Et là, bon, si la fédération est prête à accepter que les équipes soient éliminées en tout préliminaire, c'est bon. Mais avec la campagne d'Esaïe, la saison dernière, il faudrait qu'on reste dans la même dynamique. Mais aujourd'hui, on ne fait rien pour aider les deux équipes pour se préparer.
Oh, le tout préliminaire, dans la deuxième moitié du mois de novembre.
Nous sommes à pile moins d'un mois. L'essentiel, on le laisse de côté.
Les deux clubs vont jouer où?
Non, c'est là l'autre problème. Le calendrier va sortir, on va avoir les confrontations, On n'a pas ouvert encore les stades au Bénin et les matchs vont se jouer comment? À moins qu'on veuille délocaliser les rencontres dans d'autres pays. On attend de voir, mais fondamentalement, les Béninois doivent savoir anticiper un certain nombre de choses. Malheureusement, l'anticipation au niveau de la fédération n'est pas leur fort et préfèrent peut-être attendre la dernière minute pour commencer par courir dans tous les sens, ce qui serait dommage pour les deux clubs. Mondial de football 2030. L'Espagne et le Portugal officialisent leur candidature commune. Après avoir tourné le dos au Maroc, les deux pays ibériques visent ainsi à co-organiser cette compétition en 2030 qui suivra celle de 2022 au Qatar et de 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Amin Birouk, une grande déception pour le royaume chérifien, mais qui peut toujours chercher d'autres possibilités.
L'Union fait la force est visiblement le sigle de toutes ces candidatures qui sont venues s'ajouter à celles qui avaient conquis l'organisation de la Coupe du Monde 2026. L'Espagne et le Portugal risquent d'être confrontés en Europe à la candidature des îles britanniques, à celle certainement de l'Argentine et de l'Uruguay au nom de la symbolique du centenaire de la Coupe du Monde. Je rappelle tout juste que le Maroc, l'Espagne et le Portugal avaient entamé des pourparlers en vue d'une candidature commune. Mais il y a eu entre-temps le veto de l'UEFA qui souhaitait que les candidatures soient inter-confédération. Cela écartait d'office le Maroc. Le veto de Chéferine, le président de l'UEFA, était prédominant. Et c'est vrai que c'est une occasion manquée pour une candidature commune entre le sud et le nord de la Méditerranée, entre l'Europe et l'Afrique, entre des civilisations et des cultures différentes, dans l'esprit de ce que souhaitait Gianni Infantino. Maintenant, souhaitons bonne chance aux Espagnols et aux Portugais, car ça pourrait permettre à certains pays de venir se préparer au Maroc, bénéficier des meilleures conditions, des installations. En attendant cela, place à la campagne électorale.
Valdo, le Maroc peut s'associer à l'Égypte qui a aussi de grandes infrastructures.
Élisée, je suis plus que convaincu que le Maroc associé à l'Égypte sera une bonne candidature pour l'Afrique de prétendre à une deuxième organisation de la Coupe du Monde de football après l'Afrique du Sud en 2010. Seul, le Maroc a déjà tenté le coup, mais ça n'a pas été, malgré l'organisation réussie de la Coupe du Monde de club en 2013 et un cahier des charges à deux avec l'Égypte peut bien faire l'affaire. Ces deux pays ont un arsenal d'infrastructures qui ne peuvent souffrir d'aucune contestation. Mais bon, Élisée, il est vrai que seules les infrastructures ne suffisent pas. Vous êtes sans ignorer que les désignations des pays hôtes des Coupes du Monde sont sujets à beaucoup d'influences politiques à plusieurs niveaux. L'exception, Afrique du Sud sur le continent, l'a peut-être été en hommage à Nelson Mandela et son combat politique qui a aligné la Coupe du Monde de rugby en 95, la CAN en 96 et les Mondiales en 2010. Il faudra alors que Marocains et Égyptiens aient des arguments de taille s'ils vont proposer cette candidature commune et prétendre rivaliser avec l'Espagne et le Portugal.
Lawal, peu de choses peuvent susciter plus d'enthousiasme que la possibilité d'organiser un mondial et l'Afrique doit s'y mettre. Non, voilà les défis que doit chercher à relever Ahmad, parce que d'ici 2030, on devrait pouvoir avoir la chance d'organiser, après 2010 en Afrique du Sud, une autre Coupe du Monde en terre africaine.
Le Maroc, mais l'Algérie, l'Égypte et le Cameroun sont des pays
qui ambitionnent, et d'ici 10 ans, ces pays pourraient se mettre au fait de la modernité en matière de stade, en matière d'infrastructures sportives pour accueillir de telles compétitions.
Ce qui étonne, l'Europe a tourné dos à l'Afrique puisqu'il était dit que le Maroc devait être associé. Est-ce que ça ne devait pas faire réfléchir Ahmad?
Est-ce qu'il a un mot à dire quand il se retrouve au niveau des instances?
Il a nommé un Marocain ambassadeur, un Égyptien ambassadeur pendant que le Maroc a été écarté de cette cour.
Et le monsieur est beaucoup plus préoccupé par sa réélection. Mais malheureusement, au-delà de tout, le foot, il est universel. Et si l'UEFA pense que l'Europe, l'Afrique ne peuvent pas organiser la Coupe du Monde, je pense que c'est une belle gaffe du côté de l'UEFA. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles se présentent. Quand ils ont besoin des talents, des valeurs africaines, on les prend et ils sont bons. Et les talents sont bons et puis on les prend, on les naturalise et tout le reste.
Mais maintenant, il faut diriger la FIFA, on a besoin des voix de l'Afrique.
Oui, maintenant, on ne peut pas organiser la Coupe du Monde avec l'Afrique. Et il est temps que les Occidentaux également sachent que l'Afrique a son mot à dire dans la gestion du foot au niveau mondial et que 2030 naturellement devrait être l'année de l'Afrique.
Merci Lawal.
Merci Élisée.
Merci aussi à Valdo, à Amin Birouk et à Abedine Si. Sporama, c'est fini. Merci à tous ceux-là qui l'ont suivi. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Au revoir.